Nous voudrions aujourd'hui nous arrêter un instant sur les limites de l'intelligence de Michel Onfray. Ce n'est pas qu'il soit idiot, hein, évidemment, mais ses préjugés et son orgueil, eh bien, l'aveuglent et lui font proférer des bêtises énormes, vraiment énormes. On va aller voir quelques-unes en tout cas.
Parce qu'il y a des moments où on se dit, bon, ben alors, ce Jésus, comment se comportait-il? Comment faut-il se comporter? Il a rien dit là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, Jésus et l'avortement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit qu'on pouvait avorter ou pas? Évidemment, Jésus ne dit rien. Donc, vous avez des philosophes qui commencent à disserter là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire de l'habillage de Jésus. Ce logos, ce verbe qui n'existe que comme verbe, il faut lui donner une existence réelle et concrète.
Alors, est-ce que Jésus ne dit rien sur l'avortement? Bien sûr que si, évidemment. Jésus a parlé de l'avortement. Qu'est-ce qu'un avortement? C'est tuer un innocent et l'être humain le plus faible qui soit, dans le ventre de sa mère. Il peut rien faire. Innocent, il peut rien faire. Bien. Alors, que pense Jésus de ce cas-là, de tuer les innocents, de tuer les faibles, hein, qui ne peuvent pas se défendre? Eh bien, évidemment, notre Seigneur condamne ce crime affreux, comme tous les crimes. Une première fois, eh bien, en rappelant d'abord le commandement de ne pas tuer, évidemment. Donc il parle de l'avortement, puisque l'avortement tue un enfant. Il rappelle donc ce commandement et il avertit que celui qui commet cet acte ignoble, eh bien, il sera digne de la mort éternelle. Car Jésus parle près de 70 fois de l'enfer, de la mort éternelle dans les évangiles. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Tu ne tueras point. Tu ne te commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, etc. Une deuxième fois, il parle, et implicitement, bien sûr, mais réellement tout de même, en disant: On lui amenait de petits enfants pour qu'il les touchât. Or, les disciples les gourmandèrent. Jésus, à cette vue, fut indigné, et il leur dit: Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Alors, monsieur Onfray, à votre avis, en tuant un enfant dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on lui laisse la possibilité à cette petite enfant, eh bien, d'aller à Jésus-Christ? Est-ce que l'avortement n'empêche pas l'enfant d'aller à Jésus? Qu'en dit votre philosophie? Jésus en parle encore une troisième fois de l'avortement en disant que ce que Dieu réserve à ceux qui justement empêchent les enfants d'aller à Jésus. Et celui qui scandalisera un de ces petits qui croit en moi, il serait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule à un âne et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller ayant deux mains dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Alors ce qui souille, déjà, simplement souiller l'âme des enfants mérite l'enfer, d'après l'évangile de notre Seigneur. Alors que mérite celui qui non seulement nuit à l'âme et tue le corps, et nuit à l'âme au point non pas de la souiller, mais de l'empêcher radicalement d'aller à Jésus? Ben, évidemment, monsieur Onfray, je pense que vous pouvez maintenant, vous avez tous les éléments pour répondre de ce que dit Jésus sur l'avortement.
La sexualité, la condamnation de la sexualité ne se trouve pas dans les évangiles. C'est saint Augustin qui s'en vient sexualiser le péché originel en nous disant bah, ça se transmet du fait de naître, le péché originel est transmis. On dit, moi, je ne suis pas responsable, moi je n'ai pas mangé la pomme. Pourquoi est-ce que je subirais les effets, les foudres de Dieu du fait que Ève ait un jour consommé de la pomme?
Alors, d'abord, Gronigo, il n'y a pas de condamnation de la sexualité dans la Bible. Relis l'Évangile, relis la Bible, il n'y a pas de condamnation de la sexualité. Il y a même un commandement d'en user, de s'unir à sa femme pour procréer et se multiplier. La sexualité qui est condamnée, c'est celle qui est hors du mariage. Car le mariage, c'est ce qui fonde la société apte à recevoir la vie, à la descendance. Bien. Donc, en dehors de ce vrai amour qui fait qu'on se donne l'un à l'autre pour toujours et pour fonder une famille, on se donne totalement, eh bien, en dehors de cet acte d'amour, la sexualité, ah oui, alors à ce moment-là, elle est déréglée et elle est condamnée parce qu'elle devient source de drame, de narcissisme, d'égoïsme, d'impureté, de déception, de rivalité, de jalousie, etc. Ensuite, oui, le péché originel se transmet de génération en génération. Oui, c'est un fait. Quand une femme droguée met au monde son enfant, eh bien, le gamin n'a rien demandé, il n'empêche, eh bien, que lui aussi est en manque de la drogue de sa mère, parce que son sang est contaminé par sa mère. Eh bien, de même, nous naissons en manque de la grâce. Et cela n'est pas tant le résultat d'une volonté première divine, mais la conséquence des actes de nos premiers parents. Car nous sommes libres et nos actes ont des conséquences. Voilà pourquoi nous serons châtiés. Nos actes ont des conséquences pour nous-mêmes et sur les autres. Si je tire dans un buisson dès que ça bouge, sans vérifier que derrière il y a un sanglier, et que je tire et que en fait c'était mon collègue chasseur qui était à quatre pattes en train de chercher ses clés, eh bien le collègue de chasse n'a rien demandé, n'empêche qu'il va se prendre la décharge de ma cartouche et il va tout de même eh bien, en mourir, et cela par ma faute. Donc Dieu le permet parce qu'il n'est pas tenu de faire constamment et à tout instant des miracles pour réparer nos désobéissances, nos actes défectueux et insensés. De même, nos parents, eh bien, ayant perdu par leur faute le don, les dons et les privilèges surnaturels que Dieu leur avait confiés pour les transmettre en transmettant la vie à leur descendance, eh bien maintenant ils en sont incapables de transmettre à leur descendance ce qu'ils n'ont plus. Et c'est donc pas plus compliqué que cela, que cette transmission du péché originel, même si c'est évidemment dramatique et qu'il y a un aspect mystérieux, c'est ça. Alors je vous renvoie, pour ce sujet-là, je l'avais déjà réfuté lors dans la vidéo sur la réfutation du mensonge universel de Pierre Jovanovic.
Mais on peut tout montrer, c'est-à-dire je pourrais improviser tout de suite quelque chose qui montrerait que l'art contemporain, par exemple, est entièrement baigné par le christianisme, entièrement. Tout l'art du XXe siècle, l'art conceptuel, l'art abstrait, tout cet art-là est là pour nous raconter que finalement, dans l'art conceptuel, par exemple, l'essentiel c'est le projet, l'essentiel c'est l'abstraction, l'essentiel c'est l'absence. Saint Jean dit quand même très précisément, je pense que pour imaginer même que ma biographie entre guillemets est un commentaire de cette phrase de Saint Jean, il dit « Au commencement était le Verbe, le Logos. Le Verbe s'est fait chair. » Et donc c'est l'histoire de l'incarnation de ce Verbe, parce que moi je pense que Jésus n'est qu'un Verbe.
Là encore, Onfray se plante magistralement. Le christianisme, c'est pas le Verbe simplement, c'est le Verbe incarné. Bien. Or, comme le dit Israël Adam Shamir, l'art conceptuel, c'est un art talmudique, un anti-art. Promu par des antichrétiens. Le Talmud a développé chez les juifs l'art du discours pour le discours, le commentaire des commentaires du commentaire, sans atteindre jamais à la vérité objective. Ah oui, puisqu'ils l'ont chassé, ils l'ont refusé dans le Messie. Donc, de par leur loi, en plus, avant, pour d'autres raisons, qui étaient empêcher l'idolâtrie charnelle, donc de par leur loi mosaïque, avant la perversion talmudique, ils rejetaient donc toute représentation figurative. Et ensuite, tout cela a empiré avec le rejet du Christ, qui est le Verbe incarné, le Verbe divin incarné, qui les a privés ensuite donc, de tout art plastique. Adam Shamir conclut, il n'y a pas d'art sans le Christ. Bien, très bien. Voilà pourquoi il n'y a plus d'art au XXe siècle. Parce que l'art conceptuel n'est pas un art. C'est de l'anti-art. Parce que le christianisme est mort dans les têtes comme dans les cœurs. Donc il n'y a plus de soumission à l'ordre naturel, ni surnaturel. Et donc il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus d'incarnation digne de ce nom. S'il y a encore, on peut dire, un lien entre le christianisme et l'art contemporain, c'est un lien négatif. L'art contemporain n'est pas de l'art, c'est de l'anti-art. Il est négateur de la nature, bref, c'est un art contre nature. Nous avions traité ce sujet-là dans notre vidéo intitulée « Faux art business ». Et voici l'extrait de notre conclusion.
Die Kunst muss, um ein solches Ziel zu erreichen, auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des Natürlichen und des Gesunden sein. Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, im Unrat, des Unrates wegen zu wühlen, den Menschen nur im Zustand der Verwesung zu malen, Kretäs als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft hinzustellen. Er hat wohl keine Ahnung, dass es nicht die Aufgabe der Kunst ist, den Menschen an seine Degenerationserscheinungen zu erinnern, als vielmehr den Degenerationserscheinungen durch den Hinweis auf das ewig Gesunde und Schöne zu begegnen.
Adolf Hitler, Kritik d'art.
Parce que, par exemple, quand Constantin, qui est le Bernard Tapie de l'époque, mais sur le territoire mondial, se convertit, vraiment un sale type, il se convertit au christianisme. Il a sa mère, qui n'est pas terrible non plus, Hélène, et d'un seul coup, tous les deux se disent « mais c'est formidable, il y a saint Paul qui nous dit « tout pouvoir vient de Dieu ». Et si d'un seul coup, je dis que le christianisme est ma religion, si je suis là au pouvoir alors que j'ai pris le pouvoir par la force, je dirais que ce pouvoir vient de Dieu, et le bon Dieu, le Dieu juste, n'est pas le Dieu des païens, c'est le Dieu des chrétiens. Il dit « j'ai vu une croix dans le ciel, et d'un seul coup, la vérité est là, et la victoire m'a été donnée de cette manière-là, contre Maxence sur le pont Milvius ».
On ferait vraiment misérable, et surtout caricatural. Relevons simplement son parti pris, sa partialité et sa malhonnêteté. Oui, saint Paul dit en effet, et il faut bien le comprendre, tout pouvoir vient de Dieu, c'est certain. Bien. C'est pour cela que la démocratie d'ailleurs, qui prétend que la souveraineté, l'autorité donc, viendrait du peuple, de l'homme ou des hommes, est une hérésie, évidemment. Un système contre nature qui détruit la société. L'homme n'a pas le pouvoir de déclarer bien ou mal le bien ou le mal moral. L'homme doit découvrir les lois, physiques comme morales, et il doit s'y soumettre. Point. D'autant plus que les lois morales ont ensuite été révélées progressivement dans le temps, par la loi mosaïque, puis par la loi évangélique. Donc l'homme doit découvrir ses lois, les apprendre, les connaître, et s'y soumettre. Pas les faire. C'est pas à l'homme de faire les lois morales. Bien. Donc tout pouvoir vient de Dieu. Mais l'Écriture sainte ne dit pas que cela sur l'autorité et sur le pouvoir. Saint-Pierre et Saint-Paul disent au sujet de l'autorité, temporelle comme spirituelle, ceci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dit Saint-Pierre dans les Actes. Puis Saint-Paul, mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc Constantin avait ses défauts, c'est évident, et même des défauts parfois, des fautes, qui ont été reprises, condamnées par Saint-Ambroise, entre autres. Mais il avait aussi des qualités bien plus grandes que ses défauts. Et surtout, contrairement à ce que dit Michel Onfray dans d'autres conférences, il n'a en rien été le créateur du christianisme, hein, qui était structurellement en place bien avant Constantin, bien avant. Donc rien à voir avec ces califes arabes qui ont les uns après les autres, pendant près de 70 ans, façonné l'islam et le Coran selon leurs besoins. La différence entre l'histoire des évangiles et du Coran est abyssale. C'est deux histoires qui n'ont rien à voir. Il y a quelque chose de divin, puis il y a une supercherie de l'autre côté. Que dirait-on si nous ne possédions qu'un seul évangile, un texte unique, un manuscrit unique, attribué par une tradition tardive, plus ou moins contestable, texte que les premiers papes auraient fait, puis défait pendant près d'un siècle, pour ensuite condamner au feu toutes les autres éditions, autres que celles qu'ils avaient choisies. Vous comprenez bien que l'évangile n'aurait aucune valeur. Le Coran n'a aucune valeur, mais l'histoire de l'évangile, ce n'est pas celle du Coran. Et on a bien vu qu'il est le texte le plus authentique et le plus intègre que nous possédons dans l'histoire des hommes. Bien. Donc les mêmes règles qui prouvent l'authenticité des évangiles prouve l'inauthenticité du courant qui fut l'œuvre, on l'a dit, et on le sait, du pouvoir califal. Donc on a déjà évoqué ce sujet, on n'y revient pas.
On lui invente un père, on lui invente une mère, et que, par définition, quand on a une mère, et que c'est qu'elle a couché avec un homme, si elle est couchée avec un homme, c'est problématique, donc il faut absolument une femme qui soit vierge. Après, on se dit, mais il y a des frères et sœurs de Jésus, et puis après on dit, mais non, c'est pas des frères, c'est des cousins, puis on dit frères, pour éviter la chose, quoi. Mais on dit, ah bon, mais si elle est mère, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas eu aussi d'autres enfants? Quant à Joseph, mais c'est le personnage conceptuel par excellence, il ne dit pas un mot dans les évangiles. Il n'y a pas un mot, pas un mot, il n'y a pas une parole. Il ne l'accompagne pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement on le voit quand il est au temple, et puis après plus rien. Il ne dit rien, il est juste là parce qu'il en faut un, mais en même temps il n'a pas couché. On dit donc que là, ça n'existe pas, la sexualité, elle est mère et vierge, bien que Jésus ait des frères, et puis en même temps cet homme, on ne sait pas d'où il vient, qui il est, s'il est mort, quand il est mort, comment il est mort, etc. Au pied de la croix, il n'est pas là, il ne l'accompagne nullement, il y a zéro parole de Joseph.
Alors toutes ces remarques de Michel Onfray sont d'une vacuité abyssale et surtout d'une partialité répugnante, vraiment répugnante, bête. Commençons par le silence de Joseph. Point de parole, évidemment, rapporté, évidemment, c'est un fait, point de parole rapporté dans les évangiles, ça ne veut pas dire que Saint Joseph était un muet, hein, évidemment. Ce silence des évangiles nous porte à croire, nous indique, que le père légal, donc Joseph, de Jésus, est mort au cours des 30 premières années de la vie cachée de son fils. Là, il n'y avait pas de vie publique, donc il n'y avait pas de raison de rapporter, c'était une vie... sainte, cachée du monde, et donc sans chose spectaculaire à rapporter, sans chose importante. Ensuite, si les évangélistes n'ont rapporté aucune parole dite par Joseph durant l'enfance de Jésus, eh bien c'est que la grandeur de Joseph réside moins dans ce qu'il aurait pu dire, mais surtout bien dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il était. L'époux virginal de Marie, le père légal, légitime, protecteur et nourricier de Jésus. Voilà la grandeur de Joseph. Ce n'est pas les paroles qui font sa grandeur, ce sont ses actes. Ce silence de Joseph, en plus, c'est un enseignement en lui-même. Les évangiles montrent à la fois que Saint Joseph a un rôle privilégié, mais aussi une importance secondaire par rapport à la rédemption et à la mission du Christ. Et donc, il est logique que Saint Joseph s'efface devant sa femme, qui est l'Immaculée Conception, et devant son fils, qui est le Verbe divin incarné. Joseph a beau être le chef de la Sainte Famille, il est le moins digne et le moins saint des membres de cette famille. Et surtout, dans l'œuvre de la rédemption, qui est l'œuvre du Christ, eh bien Joseph n'y a coopéré que de manière très indirecte. Importante, privilégiée, mais indirecte, en préparant cela, mais pas directement à la croix. Par contre, c'est Marie, l'Immaculée Conception, qui va avoir un rôle direct, relatif, mais direct, dans la rédemption, en accompagnant son fils durant toute sa vie publique et dans les moments charnières de la rédemption. Donc Cana, la croix, la Pentecôte. Enfin, Joseph donc ne coopère que indirectement à l'œuvre du Christ, sa place est indispensable. Hein. Il ne convenait pas que Marie soit une femme seule, isolée avec son enfant. D'abord parce que ça aurait été un risque d'infamie pour elle, parce que beaucoup de gens n'auraient pas cru comme aujourd'hui à sa virginité. Et puis surtout, le Christ ne voulait pas que naître dans une famille mutilée, bâtarde. Non, c'est une vraie famille, un vrai époux, une vraie femme, mais même si l'enfantement et la conception est miraculeuse. Il fonde une vraie famille. Donc Dieu voulait naître dans une vraie famille, certes hors du commun, avec un aspect miraculeux, mais une vraie famille. Et donc Marie était bien l'épouse de Joseph. Ensuite, pourquoi Joseph et Marie, qui sont au cœur donc dans la rédemption messianique, pourquoi n'auraient-ils pas pu être inspirés de faire ce que des époux chrétiens, par la suite, ont décidé de faire eux-mêmes, à savoir de contracter un mariage, certes, mais un mariage angélique, uniquement pour se soutenir l'un l'autre dans la vie spirituelle, et pas pour procréer. Donc, c'est des cas rares, mais qui ont existé, qui sont fréquents siècle après siècle dans l'histoire de l'Église. L'histoire a retenu parmi les noms les plus connus de ces couples angéliques, Saint Henri et Sainte Cunégonde, au Xe siècle, donc des princes. Saint Julien et Basilis au 4e siècle, Sainte Mélanie et Saint Pignin toujours au 5e siècle, Sainte Pulchérie et Martien au 5e siècle, Sainte Éléazar et Sainte Dauphine au 14e siècle. Et puis Sainte Cécile et Valérian au 3e siècle. Tous ces époux vivaient comme des frères et des sœurs. Vraiment époux, mais chastes comme des frères et des sœurs. Et donc ces couples, en fait, ont fait de leur vie une anticipation de la vie céleste. Et ils ont à la fois lié un aspect religieux monastique à un aspect mondain et conjugal. Et donc leur vie était comme une anticipation de la vie céleste, de l'état qui sera celui de l'humanité après la résurrection générale des corps, hein, où il n'y aura plus ni d'époux ni d'épousailles, mais nous serons comme des anges, dit l'Évangile. Hein. Donc leur continence était toute surnaturelle, ouais, en vue du royaume des cieux. Ouais. Et bien sûr, cette vocation très particulière ne s'explique que par le mystère révélé du Christ. Et il est évident que Marie et Joseph étant au cœur de ce mystère, eh bien, eux-mêmes sont le premier couple angélique de l'histoire chrétienne. En ce qui concerne la naissance miraculeuse du Christ par l'opération du Saint-Esprit dans la Vierge Marie, eh bien, cette naissance n'est pas plus admirable que la création d'Adam. Hein. C'est la toute-puissance de Dieu qui a créé d'Adam à partir de rien. Il n'était pas plus difficile de créer Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Et puis, pas plus difficile non plus à faire, à réaliser que la création d'Ève, uniquement à partir de la côte d'Adam. Eh bien, Jésus a été créé par Dieu dans le sein de Marie à partir du patrimoine génétique de Marie. Voilà. Ce n'est pas à partir d'une côte, ce n'est pas à partir de la glaise, comme pour Adam, c'est à partir de la matière, donc on peut dire l'ovule, l'ovaire donc de Marie, qui a été comme multipliée et virilisée par la puissance divine. Ouais, voilà. Oui, Dieu est créateur, donc c'est pas, y a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire pour nous, mais par rapport à Dieu, il n'y a rien de difficile. L'objection des frères de Jésus est classique, elle revient régulièrement par ignorance de la réfutation, qui est définitive. Hein. Nos évangiles, en effet, mentionnent plusieurs fois cette expression « les frères de Jésus ». Il y a au moins 7-8 passages. Bien. Mais ces frères ne sont pas des frères utérins, hein, même père, même mère de Jésus, hein, nés après lui, comme l'ont soutenu régulièrement les hérétiques au IVe siècle, Elvidius, et puis Jovinien, et puis les Sociniens au XVIe siècle, et puis aujourd'hui les rationalistes et quelques protestants. Cette opinion n'a aucun fondement historique et surtout elle est contraire à la foi. Ces enfants ne sont pas non plus ceux de Saint Joseph qu'il aurait eu dans un mariage précédent, comme le prétendent quelques apocryphes. Ce qui va influencer quelques pères orientaux, et pas des moindres, hein, Clément d'Alexandrie, Origène, Saint Hilaire, lui c'est un père latin, Saint Épiphane, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Éphrem vont proposer cette solution-là. Ben, en fait, ces hypothèses ne sont pas compatibles avec le récit évangélique, donc elles sont fausses. Ni saint Matthieu, ni saint Luc ne parlent de fils de saint Joseph. On parle de frères de Jésus, mais pas de fils de saint Joseph. Donc, s'il y avait des fils de saint Joseph, on devrait les trouver à Bethléem pour le recensement, et ils auraient dû suivre leur père en Égypte avec le Jésus. Parce que quand les évangiles parlent des frères de Jésus, le contexte montre qu'ils sont plus âgés que lui. Alors un philosophe comme Onfray a apparemment du mal à comprendre qu'on puisse, et il n'est pas le seul, hein, qu'on puisse user du terme frère de manière analogique au sens large, hein, au sens de voisin, au sens de cousin, au sens de même village, etc. On sait qu'en hébreu, le mot frère a une acception beaucoup plus étendue que dans nos langues occidentales, où un frère, c'est un frère, même père, même mère. Dans les langues orientales, ce n'est pas comme ça. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça non plus. Ça désigne fréquemment, au sens large, un parent. On le voit dans Genèse chapitre 13, où Lot est appelé le frère d'Abraham. Ce n'est pas même père, même mère. C'est pas ça le lien de parenté. Dans l'Ancien Testament, toujours, on a Laban, qui est le frère de Jacob. Là encore, c'est l'oncle, c'est pas le frère. Oui, mais dans les langues orientales, frère, c'est un parent, voilà. Une manière de parler. Donc cette manière de parler est passée ensuite dans les 70, et puis cette version, par cette version, bah, ça a été, c'est devenu une manière de parler dans le Nouveau Testament. Bien. Rien d'extraordinaire à cela. Malgré le fait que c'est vrai que le grec a bien un mot pour désigner le frère, et un autre mot pour désigner le cousin, c'est vrai. Mais les évangiles ont été écrits en hébreu, dans un mode de pensée sémite, et ensuite seulement traduits en grec. Bien. Donc l'usage du mot frère au sens large est donc une trace de sémitisme dans, dans les évangiles. De nos jours encore, le mot frère chez les sémites, et puis aussi ailleurs, hein, en Afrique, moi j'y ai été, j'ai eu le cas, le mot frère s'applique à tout individu appartenant au même clan, à un même village. Hein, quand j'avais un cuisinier qui était béninois, il m'a dit, tiens, je te présente mon frère. Ah, il dit, même père, même... Non, on est du même village. Ils étaient expatriés au Gabon, il est béninois. Un béninois rencontre un béninois au Gabon, ils sont des frères, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Même s'il y a, dans leur langue, un mot pour dire cousin, oncle, machin. Non, on est frères. On est du même village. Donc, ensuite, aucun de ses frères du Seigneur n'est appelé fils de Marie, ou fils de Joseph, hein, on l'a dit. Bien mieux, Jésus est appelé par saint Marc, donc le plus précis, le fils de Marie, avec un article, hein, ce qui est de nature à bien montrer qu'il est le fils unique de Marie, donc un seul enfant, Jésus. En mourant, ensuite, Jésus va confier sa mère à saint Jean, son disciple, qui n'a pas de lien de parenté direct. Et si Jésus avait eu d'autres frères, eh bien c'est à ses frères, qu'il, selon la loi, qu'il aurait dû remettre sa mère, et pas à un étranger, fût-il un disciple. Donc la chose serait inexplicable, donc s'il y avait bien eu des frères au sens littéral, comme on veut le prétendre, d'autant plus que les frères au sens large sont toujours présents au Cénacle, hein, où il y a Marie, les apôtres et les frères de Jésus. Alors pourquoi ne pas avoir confié Marie à ses frères? Bien. Donc s'il est hors de doute que les frères du Seigneur, les frères de Jésus, ne sont ni les fils de la Sainte Vierge Marie, ni ceux de Saint Joseph, d'un autre mariage, il est par contre plus difficile d'établir le lien de parenté exact qui existe entre ses frères, ses sœurs et notre Seigneur. Est-ce qu'on est dans l'ordre du voisin, du village, du cousin? Ça, c'est plus... Alors, pour ceux qui veulent approfondir cela, le Père Régnier, dans son manuel d'écriture saint, tome 4, eh bien, donne toutes les possibilités possibles, mais là, on n'est plus dans la certitude. Et concluons en montrant bien que notre Seigneur, eh bien, lui, parle bien des frères et des sœurs au sens large. Donc, il y a d'abord le sens large physique, et puis ensuite, il y a le sens large spirituel. Sa mère et ses frères arrivèrent en se tenant dehors. Ils l'envoyèrent appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici dehors votre mère, vos frères et vos sœurs qui vous cherchent. » Il leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. »